bonjour Yves au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait déroger à la tradition et qui vous rappellera donc que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis quelque part vers 1895. Ce jour dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons évoquer la carrière d'un prolifique compositeur italien, Fiorenzo Carpi. Carpi comme une carpe avec un i à la fin. Fiorenzo Carpi, né en octobre 1918 et décédé déjà en mai 1997, et qui a donc eu une fructueuse carrière largement consacrée à la cinématographie italienne et notamment à Luigi Comencini, que nous évoquerons un peu plus tard dans cette émission. Mais nous étions, pour ce qui est des grandes années de composition de Fiorenzo Carpi dans les années 60-70, à une époque où les coproductions franco-italiennes étaient très très nombreuses, et par conséquent, Fiorenzo Carpi a fait quelques incursions remarquées dans le cinéma français. Et nous allons tout de suite commencer cette émission justement en écoutant la bande originale d'un film de Louis Malle tourné en 1960 avec Philippe Noiret et Catherine de Mangeau dans les rôles principaux. Un film qui est Zazie dans le métro. A-t-on besoin de rappeler que Zazie dans le métro, c'est d'abord une sorte de roman, mais le terme roman convient assez mal, de Raymond Queneau, un jeu sur le langage comme l'homme savait les faire, et beaucoup jugeaient que Zazie dans le métro, dont le producteur Raoul Lévy avait acheté les droits d'adaptation au cinéma pour une somme absolument considérable, eh bien beaucoup jugeaient le texte inadaptable à l'écran, ce qui évidemment excita Louis Malle et Jean-Paul Rappeneau, qui deviendra plus tard un fort estimable réalisateur et qui, ma foi, sentit pas trop mal pour cette adaptation qui jouait un peu, puisqu'il n'était pas question vraiment de jouer sur le langage, même si le dialogue de Raymond Queneau originel était respecté, qui jouait un peu sur un comique muet à la façon burlesque des grands américains comme Buster Keaton, Harold Lloyd ou quelques autres, et qui, ma foi, y réussissait plutôt bien dans un Paris des années 60 un peu rêvé et magnifié par la photographie signée de Henri Reichy. De temps en temps, il faut aussi évoquer les directeurs photos. Quant à la musique, bien évidemment, vous l'avez compris, elle était signée de Fiorenzo Carpi et je vous propose d'en écouter donc sans plus attendre un petit extrait dans 24 notes secondes. Thank you. Banjo et piano de Bastring, quelque part entre Nino Rota et François de Roubaix, un extrait de la bande originale de Zazie dans le métro, un film de Louis Malle tourné en 1960, et une musique signée de Fiorenzo Carpi, notre héros de ce jour. Eh bien, on va retrouver les mêmes pour un second extrait, c'est-à-dire Louis Malle à la réalisation, Louis Malle et Jean-Paul Rapneau au scénario et Fiorenzo Carpi à la musique, pour un film cette fois tourné en 1962, alors qui était aussi la plus belle peut-être illustration de ce que c'était qu'une coproduction franco-italienne à l'époque, puisqu'on retrouvait dans le rôle féminin principal Brigitte Bardot, qui était à l'époque la vedette bien connu depuis « Et Dieu créa la femme ». Et dans le rôle masculin principal, eh bien, ce cher Marcello, comment pourrait-il en être autrement ? Brigitte Bardot, Marcello Mastroianni, quoi qu'on pense maintenant de Brigitte Bardot, eh bien, à l'époque, c'était un couple de rêves. Et Louis Malle les avait réunis pour un film qui s'appelait « Vie privée », mais avec un titre un peu antinomique, puisqu'en fait, de « Vie privée », il n'en était rien. Le film racontait l'histoire de Gilles, interprété par Brigitte Bardot, qui devient une star de cinéma et qui, d'une certaine manière, a beaucoup de difficultés à gérer cette célébrité, ce qui était sans doute le cas aussi dans la vraie vie pour Brigitte Bardot. Bref, vous l'avez compris, vie privée, eh bien, c'était plutôt vie publique, à la fois celle du personnage incarné par Brigitte Bardot et puis aussi celui de Brigitte Bardot elle-même en tant que personnage, dans une sorte de jeu en abîme qui, ma foi, n'était pas vraiment très convaincant. Un film quand même relativement commercial où Marcello promenait sa dégaine et son charme avec sa décontraction action habituelle, et on n'avait pas l'impression, d'ailleurs Louis Malle le confirmera d'ailleurs plus tard, que ni Brigitte Bardot ni Marcello Mastroianni ne se sentaient très investis dans le film, au-delà du montant sans doute conséquent de leur cachet. Quant à Fiorenzo Carpi, bien, je ne sais pas combien il avait touché d'argent pour écrire cette bande originale, mais vous allez pouvoir juger par vous-même de la désinvolture ou de l'intérêt de la chose. Je vous en propose donc un petit extrait, vie privée, mais dans 24 notes secondes.
Thank you.
On aurait plutôt vu ça chez René Clair, plutôt entendu ça chez René Clair ou Max Ophüls, mais c'est bien un extrait de Vie privée, un film de Louis Malle tourné en 1962. Fiorenzo Carpi était à la composition. Et j'ai évoqué au début de cette émission la complicité privilégiée entre Fiorenzo Carpi et Luigi Comencini. Eh bien, nous allons l'illustrer avec un extrait certainement d'un des films les plus connus, ou en tout cas les plus réputés, de Luigi Comencini, un film tourné et sorti en 1967, mais présenté au Festival de Cannes pour un grand insuccès, puisqu'à l'époque, je cite, les critiques avaient condamné le mépris du cinéma, une œuvre répugnante, le pire cinéma, tous les poncifs, etc., pour un film qui était un mélodrame et qui s'assumait comme tel l'histoire d'un veuf avec ses deux enfants. L'un des enfants est privilégié, l'autre se sent incompris, d'où le titre du film. Je vous préviens et je spoil un peu, ça finit plutôt tragiquement, mais c'est un film absolument magnifique. Et d'ailleurs, même s'il a été un insuccès à sa sortie, comme quoi on peut toujours changer d'avis, 10 ans plus tard, quand le film ressortit en France, eh bien c'était une œuvre émouvante et rigoureuse, l'œuvre d'un grand moraliste, des accents déchirants, etc., etc. Bref, ne prenons jamais pour argent comptant ce que peuvent dire les gens, puisque les gens, ça change d'avis très très souvent. Il n'y a que l'inconstance qui est permanente. Voilà qui est dit, on va écouter un extrait, ce sera mieux. La bande originale donc d'un film qui en italien s'appelait Incompresso, mais je ne sais jamais où il faut mettre l'accent. En français, ça s'appelait L'Incompris. Comme je peux comprendre. Allez, dans 24 notes, secondes. Une musique de circonstance, puisqu'il s'agissait d'un mélodrame, L'Incompris. Alors j'ai oublié de vous préciser, honte à moi, que dans le rôle principal du consul de Grande-Bretagne à Florence, puisque tout ça se passait en plus à Florence, eh bien, on avait Anthony Quayle, qui fut un grand acteur du cinéma anglais et donc occasionnellement italien dans les années 60-70. J'ai oublié aussi de vous dire que le film connu à sa ressortie, donc un tel succès qu'on en fit un remake américain. Mais oui, ça s'appelait Besoin d'amour. Déjà, tout de suite, sous la direction du, pourtant, Jerry Schatzberg, le réalisateur de L'Épouvantail, avec Gene Hackman dans le rôle d'Anthony Quayle. Ai-je besoin de le dire, mais ce sera fait, que le remake américain était, comme dans bien souvent, c'est le cas, relativement pas réussi, il faut le dire comme ça. Et donc, plutôt se concentrer sur l'original de Luigi Comencini, avec lequel nous allons rester, puisque la collaboration Fiorenzo Carpi-Luigi Comencini mérite d'être célébrée comme telle, en écoutant maintenant un extrait de la bande originale d'un film absolument magnifique intitulé Casanova, un adolescent à Venise. Alors en italien, je crois que ça s'appelait, mais je vous le traduis parce que je vous répète, mon accent n'est jamais bien mis. Enfance, vocation et premières expériences de Giacomo Casanova, le Vénitien. Donc autant dire que le film, contrairement au film de Fellini consacré à Casanova, qui se penchait plutôt sur la fin de vie du séducteur et en faisait quelque chose de magnifique et répugnant, pour reprendre le terme déjà utilisé, ici nous sommes avec le Casanova des débuts, le Casanova tout jeune, celui des premiers émois, puisque donc Luigi Comencini, même s'il ne s'agit pas de le réduire à ça, fut un grand cinéaste de l'enfance, de l'adolescence, de la jeunesse. Et bien, en l'espèce, c'était la jeunesse qu'il privilégiait pour ce film, dans lequel c'était peut-être la seule fausse note. Et bien, le rôle principal de Casanova était tenu par un acteur anglais, là encore, Leonard Whiting. Vous ne le connaissez pas, moi non plus, ou presque. Disons que l'homme n'a fait une grande carrière ensuite, mais par contre, le film avec Leonard Whiting et avec bien d'autres, notamment Christina Comencini, la propre fille du réalisateur, qui deviendra elle-même, bien des années plus tard, une réalisatrice et une romancière plus qu'estimable. Eh bien, le film, c'est un petit bijou à voir ou à revoir. Je suis sûr que c'est sur YouTube. Allez, on écoute un extrait de la bande originale, Casanova, etc., dans 24 notes, seconde. À l'image de son protagoniste et puis aussi de son metteur en scène, un extrait de la, c'est-à-dire bondissante et joyeuse, un extrait de la bande originale de Casanova, un adolescent, voilà, ça veut tout dire, à Venise, un film de Luigi Comencini tourné en 1969, une musique de Fiorenzo Carpi. On va encore illustrer, ce sera la troisième mais hélas la dernière fois de cette émission, on va encore illustrer cette complicité entre Luigi Comencini et Fiorenzo Carpi avec un extrait des Aventures de Pinocchio, un film tourné en 1972. Est-il besoin de rappeler, hélas sans doute, que les Aventures de Pinocchio, mais c'est avant tout un conte de Carlo Collodi et non pas un film de Walt Disney, s'il vous plaît, pour lequel et pour l'occasion, eh bien, Luigi Comencini avait obtenu les grands moyens de la télévision italienne, la RAI, si bien nommée, puisque au départ, il s'agit d'un feuilleton, maintenant on dirait une série, qui dure environ 5 heures, découpée en 5 épisodes, et qui connut en Italie, lors de sa télédiffusion, un tel succès que Comencini obtint l'autorisation, entre guillemets, d'en faire aussi un film de long métrage pour sortir au cinéma. Alors le film était évidemment beaucoup plus court, il ne durait que que 2 heures, mais il préservait très largement le charme original. Et puis, il adaptait aussi avec joliesse et tendresse le conte de Collodi. Il faut dire que dans le rôle principal de Gepetto, bien sûr, il y avait Nino Manfredi, l'un des grands du cinéma italien des années 70. Et il y avait Gina Lollobrigida, déjà, dans le rôle de la fée turquoise. En plus, donc vraiment, que veut-on de plus, si ce n'est évidemment écouter un petit extrait de la bande originale de La Chaux. Donc ça s'appelle Les Aventures de Pinocchio, en italien aussi, tiens comme c'est bizarre, une musique de Fiorenzo Carpi dans 24 notes. Ça sorti du folklore italien, mais non, c'est bien une composition originale de Fiorenzo Carpi, et d'ailleurs c'est certainement le thème le plus connu du compositeur en Italie, un extrait de la bande originale des Aventures de Pinocchio, un film de Luigi Comencini tourné en 1972, et on va se quitter en écoutant alors là quelque chose... Je ne peux pas trouver plus différent, puisqu'il s'agit en fait d'un film tourné en 1976 par le sulfureux Tinto Brass, un réalisateur qui s'est spécialisé... On va dire dans les films de cul arty, si vous me passez l'expression sur ces antennes. Sinon, vous pouvez faire bip quand je dis, mais je ne le redis pas, évidemment. Donc, à mi-chemin entre Playboy et Penthouse, pardonnez-moi, mesdames, il en a fait beaucoup. Il a fait notamment La Clé avec Stefania Sandrelli ou un Caligula ou je ne sais plus comment s'appelait cet acteur, mais faisait des choses assez bizarre qu'un empereur romain sans doute n'avait jamais fait. Et puis en 1976, eh bien, Tinto Brass tourna Salon Kitty. Rien que le sujet déjà donne un peu une idée du propos, puisque Salon Kitty, c'est l'histoire d'un bordel. Je crois que le mot est approprié, à Berlin, où les prostituées étaient en même temps espionnes pour le compte du parti nazi, c'est-à-dire que les nazis s'espionnaient entre eux. Je vous laisse imaginer ce que ça pouvait donner, surtout dans le rôle principal, il y avait Helmut Berger, plus connu sans doute pour être l'un des égéries, je ne sais pas si ça marche au masculin, de Visconti, qu'il a interprété notamment dans Ludwig et puis dans d'autres films de Visconti. À ses côtés, il y avait Ingrid Tulin, une actrice remarquée ou plutôt découverte par Ingmar Bergman, qui a joué aussi des rôles d'allemande. Bref, le film était assez bizarre. Il relevait de ce qu'on a appelé la nazi-exploitation, c'est-à-dire les films qui jouaient sur une sorte de fascination pour les insignes nazis. Et puis, dans d'autres pays, eh bien, on l'a utilisé comme un film de bip, mais avec la possibilité de ne pas le classer X. Bref, tout ça a été assez bizarre, ce qui fait que j'en perds mes moyens. Je dois le reconnaître. Je ne sais pas ce qu'il en est de Fiorenzo Carpi. Juste noter aussi que les décors du bordel étaient signés de Ken Adam. Alors, peut-être c'est un nom qui ne vous dit rien, mais Ken Adam fut dans les années 70 le décorateur de beaucoup de James Bond. C'est notamment à lui qu'on doit l'île de l'homme au pistolet d'or. Et puis, juste avant Salon Kitty, il venait venait de travailler avec Stanley Kubrick sur Barry Lyndon, là encore rien à voir, et il avait fait une dépression nerveuse, puisque apparemment Stanley Kubrick était un génie, mais un génie un peu tatillon. Voilà, j'en ai assez dit, trop dit, peut-être, vous en jugerez. Fiorenzo Carpi dans 24 notes secondes pour Salon Kitty. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.